Et l'invité du grand entretien est ce matin professeur émérite au Collège de France. Il fut longtemps le titulaire de la chaire de littérature française moderne et contemporaine. Nous l'avions reçu ici même le jour de sa dernière leçon. C'était en janvier dernier. Nous allons parler ce matin de Baudelaire, avec lequel il nous avait permis de passer un été sur France Inter. Car oui, aujourd'hui, c'est le 200e anniversaire de Baudelaire. Bonjour Antoine Compagnon.
Bonjour.
Et merci d'être à notre micro ce matin. Les auditeurs dialogueront avec vous dans une dizaine de minutes. Il faut le savoir, Antoine Compagnon, dans les médias, on adore les anniversaires et tout particulièrement ceux à chiffres ronds. Je ne sais pas ce que Baudelaire aurait pensé de cette manie, à mon avis, pas du bien. Il y a 15 jours, François Sureau était assis à votre place et nous parlait longuement d'Apollinaire, son ami Guillaume, qui l'a accompagné pendant toute cette période étrange, le temps suspendu de la pandémie et ce qui va avec le rétrécissement de nos vies familiales, amicales, social. Dites-nous, Antoine Compagnon, si vous vous êtes tourné vers Baudelaire ces derniers mois, et si oui, pour y chercher, pour y trouver quoi ?
Je me tourne toujours vers Baudelaire. J'ai toujours Les Fleurs du Mal, Le Spleen de Paris auprès de moi. Mais il y a quelques poèmes auxquels j'ai été particulièrement sensible durant cette période, depuis un an. C'est par exemple L'invitation au voyage. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Depuis un an, nous ne voyageons plus et on se rappelle que le dernier poème des Fleurs du Mal est intitulé « Le voyage » et qui nous donne cette grande curiosité pour l'enfant amoureux de cartes et d'estampes. L'univers est égal à son vaste appétit. Nous avons oublié tout ça pendant... un an.
Oui, et vous n'êtes donc pas allé chercher de l'autre côté de Baudelaire, si j'ose dire, dans le poème Spleen, rien n'égale en longueur les boiteuses journées, quand sous les lourds flocons des neigeuses années, l'ennui, fruit de la morne incuriosité, prend les proportions de l'immortalité. J'ai lu ça, je me suis dit, il n'y a pas de meilleure définition, description de ce moment suspendu qu'on est en train de traverser. Je me trompe?
Écoutez, moi je ne l'ai pas trop mal vécu, mais dans des conditions privilégiées depuis un an, le confinement, et plutôt favorable au travail.
Oui. Comment décrire l'expérience de l'ennui chez Baudelaire ? Qu'est-ce qui se joue là dans sa poésie ?
L'ennui, c'est la condition, c'est la mélancolie, c'est ce que vous venez d'évoquer. L'ennui, c'est la condition du poète devant... le monde moderne où il n'y a plus de merveilleux, où il n'y a plus d'étonnement, de surprise. Pour combattre l'ennui, il faut le choc. Et c'est ce que Baudelaire recherche dans toute sa poésie et aussi dans toute sa vie.
Quel choc ? Expliquez-nous.
Le choc, c'est ce qui se passe quand on va dans la rue et qu'on croise une passante. Comme dans le poème « À une passante ». Peut-être que les poèmes qui représentent le mieux cette esthétique du choc, ce sont ceux des tableaux parisiens, « Le Cygne », « Les Sept Vieillards », « Les Petites Vieilles », toute cette série qui rompt justement l'ennui par la surprise.
Baudelaire fait partie des quelques écrivains auxquels vous avez consacré une vie de recherche. Antoine Compagnon, vous avez fait un long cours sur lui au Collège de France, vous lui avez consacré plusieurs livres. Qu'est-ce qui vous a d'abord frappé chez Baudelaire ? Son côté scandaleux, sulfureux, les poèmes amoureux, la nostalgie, la mélancolie, qu'est-ce qui vous a harponné ?
Écoutez, je me souviens d'avoir été très profondément marqué par les poèmes que j'ai lus en classe de première, ce qui remonte à loin. Et à l'époque, c'était le deuxième spleen. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. C'était ces poèmes, donc ces poèmes de la mémoire, cette poésie de la mémoire qui est introduite par Baudelaire au milieu du 19e siècle et qui nous mène jusqu'à Proust. Il y a quelque chose qui les relie dans cette poétique. Je pense que c'est cela. Au fond, c'est les poèmes aussi comme correspondance. Et je crois que c'est seulement beaucoup plus tard que j'ai été sensible aux poèmes qui sont sans doute les plus subversifs et qui sont ceux de 1859, des tableaux parisiens justement, ou du voyage que je citais, les poèmes que Baudelaire a introduit dans la seconde édition. Mmh. Vous savez, en 1857, il a été condamné, enfin les Fleurs du Mal ont été condamnées.
Outrage à la morale publique.
Et voilà, il a dû retirer un certain nombre de poèmes. Bon, c'est une humiliation terrible. Hein. Alors là, c'est vraiment une grande souffrance. Et il ajoute des poèmes pour la seconde édition, et c'est ces poèmes-là qui sont au fond les plus audacieux, les plus en rupture avec l'esthétique qu'il avait encore appliquée dans la première édition des Fleurs du Mal.
Que reste-t-il, Antoine Compagnon, justement du caractère sulfureux, scandaleux de Baudelaire aujourd'hui que on l'enseigne à l'école, que des collégiens récitent l'Albatros? Est-ce qu'il a perdu de cette charge-là?
Écoutez, je ne crois pas. Je crois que Baudelaire reste étonnamment subversif 2 siècles après sa naissance. On ne peut pas oublier d'abord qu'il a été condamné très très longtemps, qu'il a été introduit tardivement dans le canon scolaire. Bon, aujourd'hui, avec Apollinaire que vous évoquiez, il est certainement les Fleurs du Mal et Alcool, ce sont les recueils poétiques qui sont les plus lus. Mmh. Mais je suis étonné par le peu de célébrations qui sont au programme de ce second centenaire. Au fond, bon, il va y avoir une exposition à la Bibliothèque nationale à l'automne, mais nous n'avons pas entendu, aujourd'hui, on en parle aujourd'hui parce que c'est la date même du second centenaire, mais
bon,
personne n'a proposé, il y a quelques mois, de le panthéoniser.
Oui, c'est une question qui se pose effectivement.
Pourquoi pas Baudelaire ?
Pourquoi pas Baudelaire
plutôt
au Panthéon ?
Plutôt que Rimbaud, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui reste profondément subversif dans l'œuvre de Baudelaire.
Bon, quoi alors ? Qu'est-ce qui reste subversif aujourd'hui au point que, ça n'est pas l'année Baudelaire, comme on pourrait le dire ?
Eh bien, ce qui reste subversif, c'est ce côté toujours inattendu, toujours provoquant. Vous évoquiez cette modernité de Baudelaire. Baudelaire est l'inventeur de la modernité et en même temps, il est celui qui insulte cette modernité à longueur de page dans Fusée, dans Mon cœur mis à nu, dans sa critique d'art. C'est très violent, cette démarche de Baudelaire. Et puis, si on parlait de le panthéoniser, eh bien, personne ne manquerait de citer ce qu'il a dit des femmes, ce qu'il a dit du progrès, ce qu'il a dit de la démocratie. Baudelaire défend le péché originel. Qui parle encore du péché originel aujourd'hui? Donc, il y a chez Baudelaire cette façon de toujours nous déconcerter, je crois qu'il le fait encore. Ce qui est étonnant, par exemple, c'est Baudelaire est sans doute le seul de nos grands écrivains qui n'est pas une société d'amis. Il n'y a pas de société des amis de Baudelaire. Il y a des amis de Rimbaud, il y a des amis de Proust, il y a des amis de Montaigne, il y a des amis de La Fontaine, il y a des amis de tous.
C'est peut-être bien, au fond, non,
Antoine? C'est très bien.
Antoine Compagnon, d'être irrécupérable, irrécupéré et irréductible, comme vous le dites dans ce livre, Baudelaire, l'irréductible.
Exactement.
Au fond, il n'y a toujours pas de prise parce que c'est trop explosif.
Je suis très heureux qu'il n'y ait pas de société des amis de Baudelaire. Mmh. Il est le seul écrivain, ça ne veut pas dire qu'il y a une société des ennemis non plus, mais il reste dans cette sorte de solitude d'aristocratie, c'est le dandy. Baudelaire est le dandy et on ne peut pas se réunir autour de lui.
Alors vous l'avez dit, il a donné toute sa force et sa puissance au concept de modernité, le mot existait avant, mais c'est lui qui va lui donner sens et contenu. Et c'est un moderne anti-moderne. Il analyse comme personne le monde qui l'entoure, mais il est ce monde. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il est dans ce monde moderne ?
Il est dans ce monde moderne la perte de l'idéal. Le monde moderne est identifié pour lui au progrès, qui est d'abord le progrès technique. Baudelaire a assisté au développement de la presse, au développement de la photographie, au développement de la ville, des transports, la foule. Et tout ça représente pour lui une perte. Tout progrès implique une perte. Alors Baudelaire est en même temps celui qui est le plus sensible au progrès. Il adore la ville. C'est l'homme des foules, comme Edgar Poe. Mais en même temps, il sait ce que cela représente comme regret, comme nostalgie. Pensez au beau poème du Cygne. Paris a changé. Paris a changé, Paris n'est plus le Paris de son enfance, et il y a là une très grande violence qui est faite. D'où cette dimension, me semble-t-il, que j'ai qualifiée d'anti-moderne chez Baudelaire, qui est de lucidité sur la modernité dans sa dimension de perte.
Vous avez très finement analysé ce que vous avez donc appelé les anti-modernes. Existe-t-il encore aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un fil continu qui irait par exemple de Baudelaire à Houellebecq ?
Écoutez, je ne le crois pas, parce que l'objet de la haine de Baudelaire, c'est la doctrine du progrès. C'est la doctrine du progrès qui vient du XVIIIe siècle et de Rousseau. C'est pourquoi il privilégie Joseph de Maistre contre Rousseau. Et l'idée de ce progrès technique, scientifique, appliqué à l'homme, appliqué à la dimension morale. Et Baudelaire nous dit le seul progrès serait la diminution des traces du péché originel. Donc, c'est ça qu'il condamne. Et nous sommes dans un moment historique où la doctrine du progrès n'est plus aussi florissante qu'au XIXe siècle, ou même dans ma jeunesse. Il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, on croyait beaucoup plus au progrès.
Mais on parle du progressisme aujourd'hui, ça reste une idéologie politique qui est là, parmi nous.
Hein, elle est là, mais elle
dont des partis se réclament.
Elle n'est plus aussi hégémonique qu'à l'époque de Baudelaire, où elle était développée par la grande presse, et elle n'est plus aussi dominante qu'il y a un demi-siècle. Et par conséquent, s'élever contre le progrès comme Baudelaire le faisait, c'est un peu devenu un lieu commun aujourd'hui. Alors que du temps de Baudelaire, c'était véritablement une provocation. S'élever contre le progrès aujourd'hui, ce n'est plus paradoxal.
Il serait où politiquement aujourd'hui, Antoine Compagnon ?
Baudelaire ?
Oui.
Eh bien, il serait en rupture, comme il l'a toujours été. Alors, être en rupture aujourd'hui, être en rupture avec le consensus, avec ce que Barthes appelait la doxa, ça vous situe où aujourd'hui ? Eh bien, ça vous situe peut-être dans la défense du progrès, justement. C'est ça qui est paradoxal aujourd'hui, dans un moment où on se réunit de plus en plus pour se méfier de beaucoup de choses, y compris des vaccins.
C'est contre-intuitif, hein, ce que vous dites. Hein.
C'est un peu contre-intuitif, mais je crois qu'il faut le soutenir de cette manière.
Pourquoi haïssait-il la presse à grand tirage tout en ayant des rapports ambigus avec elle ? Pourquoi haïssait-il la photographie tout en entretenant une relation ambiguë avec elle ? Est-ce qu'il y a là une détestation dont les motifs pourraient s'appliquer au monde qu'est le nôtre aujourd'hui, celui de Twitter et Instagram ? Qu'est-ce qui s'est joué là ? Pour Baudelaire.
Absolument, je crois qu'on peut faire la comparaison. Baudelaire a assisté à la naissance de la photographie, il a assisté à la naissance de la grande presse, hein, c'est-à-dire cette presse qui est bon marché, à grand tirage avec de la publicité, comme nous avons assisté à l'irruption du monde numérique. Et de la même façon, nous avons une attitude à la fois de dépendance par rapport à Internet, Twitter, Facebook, et d'irritation, dépendance et irritation. Ce qui est intéressant chez Baudelaire, c'est qu'en même temps, personne n'a mieux maîtrisé ces techniques que lui. On ne peut pas oublier que beaucoup des poèmes de Baudelaire ont été publiés dans la grande presse. On ne peut pas oublier qu'il est celui qui a le mieux posé pour les photographes. Nadar et Carja, nous avons ces magnifiques photographies de Baudelaire. Donc il avait vraiment pénétré le secret de la photographie. Et cette irritation qu'il avait, c'était face, encore une fois, à une mode dominante face à ce qui devenait le dieu moderne, ce qu'il appelait une idolâtrie. C'était la nouvelle idolâtrie que ce progrès, que ce matérialisme, et Baudelaire l'identifiait, comme on l'a beaucoup identifié dans la tradition littéraire et esthétique française, à la bourgeoisie. Mmh. Il y avait quelque chose d'anti-bourgeois dans, qui le rattachait encore à la bohème.
Quand il parle de vaporisation du moi, ça aussi, je pense qu'on pourrait l'appliquer à notre époque, non, Antoine Compagnon?
Ben, oui, il a conscience que ce qui se perd dans cette modernité matérialiste, c'est la dimension idéale, la dimension spirituelle. N'oublions pas le titre « Spleen et idéal ». Donc il y a ce spleen devant le monde moderne, et à défendre, comme il le dit aussi à propos de la modernité, chercher dans la modernité ce qui est digne de l'éternité. C'est ça qui ne le quitte jamais. En ce sens, il y a une inclination classique, on pourrait dire, puisque dans cette vaporisation de la société, il faut chercher un beau qui durera. Et en fait, il l'a bien trouvé, puisque nous parlons de lui aujourd'hui. Le génie s'est inventé un poncif, disait-il. Baudelaire nous a offert quelques poncifs.
On va aller au standard, Antoine Compagnon, si vous le permettez. Caroline nous y attend. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, je voulais revenir sur le côté romantisme noir de Baudelaire. Et je pense que s'il trouve un écho dans la jeunesse aujourd'hui, c'est à cause de cette dimension. Vous avez parlé de sa haine du progrès. Et je pense que cela se retrouve pour une certaine jeunesse gothique qui est fascinée par la putréfaction, comme dans le poème Une Charogne, mais aussi par la transgression, une transgression religieuse, on peut la saisir dans les litanies de Satan, et une transgression sociale, parce que Baudelaire était aussi extrêmement cynisme, si on le voit dans les poèmes « Assommons les pauvres », les poèmes en prose, ou « Le mauvais vitrier », par exemple, où il veut détruire le vitrier, qu'il n'y met pas de couleur.
Oui, oui. Merci Caroline pour cette intervention et cette lecture de Baudelaire.
Je suis d'accord avec cette lecture. Ce qui séduit la jeunesse dans l'œuvre de Baudelaire aujourd'hui, c'est certainement cette dimension de provocation, de subversion, de cynisme qui a été rappelé par l'auditrice. Et ils ont raison, c'est ça qui fait l'actualité de Baudelaire. Encore une fois, il n'est pas récupérable, on le lit beaucoup au lycée et on le présente à l'oral du baccalauréat, mais cette dimension choquante est toujours là.
Romain, au standard, lycéen je crois, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour Monsieur Desmorand, bonjour Monsieur Compagnon.
Bonjour, on vous écoute, allez-y.
Oui, alors je voulais poser la question Monsieur Compagnon. Justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Baudelaire est considéré comme un moderne, anti-moderne. Et est-ce que c'est grâce à cette contradiction qu'on peut l'étudier aujourd'hui au lycée, par exemple?
Merci Romain pour cette question. Antoine Compagnon.
Eh bien, là aussi, je suis d'accord. Je crois que les grands écrivains, ceux que nous continuons de lire, il y a toujours chez eux des contradictions, des failles. Ils ne sont pas uniformes, ils ne sont pas ronds et bien fermés. Et je dirais ça de tous les grands écrivains, de tous ceux que je respecte, sur lesquels j'ai travaillé, que ce soit Montaigne ou Proust, il y a quelque chose qui est cassé en eux, qui n'est pas monumental. Une œuvre, une grande œuvre, ce n'est pas une œuvre monumentale, au sens où elle serait fermée. Et c'est bien entendu le cas de Baudelaire. Il y a beaucoup de contradictions chez Baudelaire et nous n'avons pas surmonté ces contradictions. Nous ne savons pas si Baudelaire est le révolutionnaire de 1848 qui se dresse sur les barricades ou celui qui défend le péché originel et Joseph de Metz quelques années plus tard. Il est les deux à la fois et il est les deux tout le temps.
Et puis il est aussi celui qui a le mieux décrit la sensualité, la puissance érotique de la peau, de son odeur, des cheveux, tout un univers qui met le corps, notre corps, au milieu de la pièce, au milieu du lit. Il sort, je vais le dire comme ça, le sexe et l'amour, des vapeurs où la poésie les consignait jusque-là, non ?
Absolument, mais c'est cette poésie de la sensation, c'est cette poésie du corps féminin, c'est une poésie érotique, et c'est aussi pourquoi il a été condamné en 1857. Et je crois que nous sommes toujours sensibles à cette dimension, qu'on peut dire érotique, de la poésie de Baudelaire. Les Fleurs du Mal sont une œuvre qui continue d'avoir cette puissance de surprise et d'étonnement. N'oublions pas ce que disait Baudelaire, que le beau, c'est l'étonnement. Et nous sommes toujours étonnés devant Baudelaire.
Alors, on va prendre, Antoine Compagnon, une minute pour écouter ensemble. C'est une merveilleuse archive de l'INA qui date de 1968, qui circule souvent sur Internet. Serge Reggiani récitant le poème en prose « Enivrez-vous ». Écoutez.
Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin ? De poésie ? Ou de vertu ? À votre guise. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui rit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui fuit, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle. Demandez quelle heure il est, et le vent, la vague, l'oiseau, l'horloge vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans trêve, de vin, de poésie, d'amour ou de vertu, à votre guise.
Sublime, non ?
C'est magnifique, et vous voyez que Baudelaire met sur le même plan vin, poésie, vertu. Donc n'oublions pas que cette ivresse, vous voyez déjà comme c'est compliqué, puisque la vertu est mise sur le même plan que le vin. Et n'oublions pas qu'il y a cette discipline chez Baudelaire, hein, c'est la subversion, mais dans la subversion du dandy, il y a une intense discipline.
Merci beaucoup Antoine Compagnon, merci d'avoir été au micro d'Inter ce matin. Un été avec Baudelaire, c'était des émissions, c'est un livre, édition des Équateurs, et ce livre est à nouveau disponible. Et puis Baudelaire l'Irréductible est lui publié en poche dans la collection Chants de Flammarion. Merci.
Merci beaucoup.
France Inter.